complètement ensemble. Julie est d'abord une artiste, c'est une féministe activiste depuis 7 ans, militante. Elle a concentré sa réflexion et ses travaux autour de la question de l'intimité. Elle est également cofondatrice du collectif féministe Les Femmes ont faim, dont elle va nous parler aujourd'hui lors de sa conférence. Le travail de ce collectif-là porte sur les diverses sexualités et les diverses formes d'érotisme. Elle a également participé à l'élaboration d'un événement qui a eu lieu en automne dernier, nommé Turn On, du collectif Artivistique. Et elle signe aussi en collaboration avec Valérie Perron des œuvres féministes à l'humour noir sous le nom de Les délicates attentions. Alors aujourd'hui, Madame Julie Châteaubert va nous faire état un peu de ses réflexions concernant le fameux débat bleu pour ou contre la pornographie, entre autres, et également sur une proposition d'une pornographie qui pourrait être militante, qui pourrait changer les modèles qui sont abordés, les modèles féminins abordés dans la pornographie. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à Julie. Juste un petit mot pour vous dire le déroulement de cette rencontre-là, juste avant. C'est la même formule, 45 minutes, une heure de conférence et suivi d'environ 45 minutes de questions, commentaires, débats de votre part. Donc, je vais vous demander de rester assis jusqu'à la fin de la période de questions, pour rester pour notre conférencière et pour les autres, et également d'éteindre vos cellulaires si c'est possible. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Julie.
Là, on va faire juste un petit test parce que je vais être debout puis je vais bouger. Fait que je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre si je dépose ça ici, ça n'a pas marché. Fait que je vais être obligée de faire ma rockstar.
Ah ouais?
Nice. Fait que si je parle comme ça. OK. Ça va-tu marcher? Ça va pas marcher? Trop de feedback?
On a des micros sans fil.
Wow! J'ai encore plus faire ma rock star. Pendant qu'on commence, j'aimerais savoir il y a combien de personnes qui ont assisté à la conférence précédente? OK, dans ce cas-là, je vais faire une petite inside joke avec vous.
Moi aussi. Bizarre.
Faire une petite inside joke. Vous avez vu le début de la conférence tout à l'heure. La joke, c'est... Je suis une artiste de performance. La joke, c'est que la conférence au début tout à l'heure a commencé par une image où il était écrit « marchandisation des femmes et des fillettes » dans lesquelles on voyait une image, c'est-à-dire une femme pas de tête, comme souvent, une femme pas de tête avec une bédaine un peu moins grosse que la mienne, mais avec un piercing, avec les mains comme ça, j'ai les ongles un peu plus courts. Et puis on a aussi parlé de tatouage. Et voilà, alors on commence quoi. Je vais vous parler aujourd'hui de... Je vais vous parler de porno. Oui, effectivement, je vais vous parler de porno. Je vais comme allonger un petit peu la présentation qu'a fait Juliane. On va... histoire de planter le décor, mais déjà avant de partir, et pour tous les gens qui n'ont pas assisté à la conférence de tout à l'heure, tout va bien, parce que ce que je vais vous demander, c'est de faire reset. Reset. On va parler du même sujet, mais sous un tout autre angle, avec une toute autre approche et avec une toute autre sensibilité. Je vous le dis dès le départ, mindset change. Je vais me présenter un petit peu plus encore. Juliane m'a très bien présenté, mais en fait, ce que j'ai entendu tout à l'heure, puis maintenant, me donne envie d'élaborer un petit peu plus sur qui je suis et d'où je viens, et pourquoi c'est moi qui vous parle notamment aujourd'hui. j'ai envie de vous dire qu'effectivement, je suis une militante féministe active, mais pas depuis 7 ans. En fait, ça fait 7 ans que je travaille sur les questions d'intimité et de sexualité. Ça fait 25 ans que je suis une militante féministe. Ce qui me permet de vous dire aussi en passant que j'ai 40 ans. Non, j'en ai pas 20. Et si je vous le dis, c'est aussi parce que dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle s'évit de multiples rapports de domination, et nous allons en parler, la parole des femmes est souvent invalidée, la parole des jeunes est souvent invalidée, la parole des travailleuses du sexe est souvent invalidée. Et alors, j'insiste un petit peu en vous disant qu'effectivement, je suis militante féministe depuis 25 ans, que je travaille sur les questions de sexualité et d'érotisme avec plus d'intensité depuis 7 ans, qu'à travers tout ça, j'ai fait plein de choses. J'ai fait un bac, deux maîtrises, une scolarité de doc, que j'ai habité en squat, que j'ai habité en banlieue de Québec, que j'ai plusieurs amies qui sont travailleuses du sexe, dans la porno et en travail du sexe qu'on appelle la prostitution, que j'ai fait mille et une affaires, que je suis une artiste de performance, que je pars un centre d'artistes, que je fais plein de choses. Si je vous dis ça, c'est pour ancrer dans de la réalité ce dont on va parler. Je suis aussi une militante anticapitaliste. J'en ai beaucoup contre les grosses industries. On a beaucoup parlé de l'industrie de la pornographie. J'aime pas du tout les industries, les grosses porcheries, les grosses méga porcheries. J'aime pas non plus l'industrie du pétrole. J'aime pas non plus l'industrie des mines. Ça dévaste des vies, ça démantèle des communautés. Ça fait exploser des rapports de domination épouvantables. Effectivement, il y a une industrie de la porno telle qu'a pu l'écrire Richard Poulin tout à l'heure. Il existe aussi au Canada toutes sortes de moyens de fuir les réglementations, notamment aux règles du travail. Le Canada est un paradis fiscal pour les industries minières, par exemple, qui dévaste des régions entières. Et je tiens à le dire aussi, puisqu'on parle aussi d'un système économique dans tout ça. Et en ça, je rebondis ou j'inscris un petit peu ce que je vais vous dire dans une certaine continuité avec ce qui a été dit avant. Cela dit, maintenant, je ne vous parle plus de ce qui a été dit avant, mais je tenais à l'ancrer. On va y revenir. Je vais vous parler, de porno, mais je vais faire un ajout aussi parce qu'en fait, ma conférence a été annoncée dans le petit dépliant, sous le titre « Une pornographie de combat », mais en fait, il y a la moitié de mon titre qui a été tronquée, et ça a une certaine importance, car ma conférence s'intitule « Contre le petit sexisme ordinaire, une pornographie de combat ». Et ça a une certaine importance, quoi. Ça a une certaine importance. Puis, c'est aussi sur le petit sexisme ordinaire que je m'interroge depuis plusieurs années. Le petit sexisme ordinaire, ça veut dire celui qu'on porte tous et toutes parce qu'on est éduqué à l'intérieur d'une société qui fonctionne selon des rapports de domination. Et parmi ces rapports de domination, il y en a un qui est important, qui s'appelle le patriarcat ou le viriarcat, et qui maintient une domination d'un sexe sur l'autre, d'un genre sur l'autre. On va nuancer tout ça. Et dans lesquels les femmes ont le côté désavantagé du rapport de force. En commençant, on va faire certains préliminaires. Alors, on va établir certains préliminaires et après avoir fait mes préliminaires sous vos yeux ébahis, je vais prendre ce mot et je vais l'immoler et l'anéantir à tout jamais de nos imaginaires. Mais en commençant, premier petit préliminaire, je vais allumer une petite chandelle. J'aimerais commencer par la fin, c'est-à-dire je vais commencer par mes remerciements, ce qu'on fait d'habitude à la fin, quand plus personne n'écoute. Je vais commencer par ça, parce que une réflexion sur le petit sexisme ordinaire et sur la manière dont il vient se nouer, se goupiller à l'intérieur de nos rapports les plus intimes, ça se fait beaucoup autour d'une bière. Une bière? Beaucoup de bière? Autour de beaucoup de café? Ça se construit à travers des heures et des heures et des heures et des heures de travail introspectif, de prise de conscience de soi, d'essayer de détacher un petit peu, c'est quoi, de se détacher des relations qu'on est en train de vivre, de comprendre comment ça fonctionne. Oh. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié que j'avais un autre micro.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi.
Merci.
Excusez-moi. OK. Et donc, ce que je disais, c'est qu'une réflexion sur la manière dont se vit le petit sexisme ordinaire dans tous nos rapports intimes, ça se construit en dialogue avec des gens. Les femmes passent un nombre incalculable d'heures à réfléchir à la nature de leur relation, à réfléchir à l'affect, à s'en sentir responsable, à devoir travailler les liens constamment et constamment et constamment. Cette réflexion-là, dont je vais vous faire part aujourd'hui, que je vais partager avec vous aujourd'hui, je la dois notamment à une multitude de conversations que j'ai eues. Il se trouve qu'il y a maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies encore, mais il y a maintenant des kilomètres de rayons de bibliothèques qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les rapports de domination entre les genres. On a maintenant beaucoup écrit, on n'a pas fini. Dans toute l'histoire de ce qui s'est écrit, ça occupe encore une toute petite partie du patrimoine littéraire, disons, de ce qu'on a écrit dans toute l'histoire de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'écriture, l'écriture des femmes est beaucoup moins présente et encore représentée, beaucoup moins citée, et on s'y réfère beaucoup moins qu'on se réfère à celle des hommes, c'est important de le garder en tête. Et en ce qui concerne la manière dont se noue le sexisme, puis comment est-ce que ça joue dans les rapports très très intimes, il y a encore moins de choses décrites. Pourtant, il y a un tas de personnes très intelligentes qui ont beaucoup réfléchi à ça. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs et j'aimerais ici remercier, rendre visible et citer toutes ces femmes qui transmettent leurs connaissances de génération en génération et à l'horizontale aussi, d'amis en amis. Je veux nommer notamment Louise-Caroline Bergeron et sa grande créativité lexicale, Marie-Pierre Boucher, Catherine Saint-Arnaud-Babin, Béatrice Châteauvert-Gagnon, ma nièce. Je veux nommer les filles des femmes enfin, Blandine Jux, Julie Lassonde, Catherine Girard-Lamoureux, le collectif artistique, Véronique Leduc, et toutes les femmes avec qui j'ai eu l'occasion de parler pendant des heures et des heures. J'ai fait des heures d'entrevues avec des femmes, notamment sur la question de leur imaginaire sexuel. Je veux les remercier et visibiliser leur travail, car c'est une des façons que se perpétue, disons, le petit sexisme ordinaire, c'est en maintenant invisible une certaine dose de travail et de service intime, émotionnel et sexuel qui sont le fait des femmes. Deuxième préliminaire. Un petit peu de musique. Je vais aussi faire une déclaration de consentement. Alors, il sera question de pornographie aujourd'hui. Je ne vous montrerai pas d'images hardcore, notamment parce qu'on ne se connaît pas et que je ne connais pas quelles sont vos limites et quels sont vos désirs et quelles sont vos envies cet après-midi. Alors, pour ce faire, puisque je suis dans l'incertitude et pour ne pas pousser sur le consentement, je ne vous en montrerai pas d'images hardcore. Je vais vous montrer des trucs rigolos. Je vais vous en parler. Il est possible que je sois crue, que vous allez me croire, j'espère. Non, mais je voulais dire que je sois crue, là. et aussi, il y a des sites web que j'aimerais vous montrer qui sont des sites web de femmes qui font de la porno féministe. On appelle ça soit de la post-porn, soit de la porno féministe. En tout cas, il y a des nuances. Il est possible que dans le contour de ces sites web-là, vous voyez effectivement quelques images qui sont des images explicites. Le consentement, pour moi, ce que ça veut dire, c'est respecter la souveraineté, la capacité des gens à décider pour eux et pour elles-mêmes, de là où elles sont rendues, de ce sur quoi elles sont en travail, de ce dont elles ont envie, et de reconnaître la complète autonomie de la personne en face de moi. Alors, si, pour une raison ou pour une autre, vous atteignez vos limites dans le cadre de cette conférence-là, bien, bien sûr, je vous invite à respecter vos limites et à faire ce dont vous avez besoin, vous, pour respecter vos limites. Si, dans le cadre de ma présentation, vous mourrez d'envie d'embrasser votre voisin ou votre voisine, please do it. En prenant soin de vérifier que votre voisin ou votre voisine a vraiment envie de vous embrasser. S'il vous plaît. Si jamais vous ne pouvez plus, puisque là, tu sais, la tension monte et que vous avez envie de ne pas juste embrasser votre voisin ou votre voisine, s'il vous plaît, attendez ma conclusion. Tu vous irez après, là. Quand même. Troisième petit élément de préliminaire. Je vais aussi aujourd'hui
dans les règles du jeu qu'on va établir, parce que je vous cause aujourd'hui quand même. Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Je vais établir un certain nombre de règles du jeu. Dans c'est notre consentement mutuel. Voici ce que je vous propose. Oh mon Dieu, j'ai tellement de blagues salaces qui me viennent en tête. Parmi les règles du jeu que je vous propose, en fait, on va essayer de changer aussi notre façon de réfléchir le dialogue ou enfin le débat. Dans la société dans laquelle on est et qui fonctionne beaucoup en rapport de domination, le rapport de domination, notamment le sexisme, se manifeste aussi dans la manière dont on prend la parole, dont on discute et dont on fait des débats d'idées. On valorise beaucoup le combat, la lutte, on valorise beaucoup le fait de construire des arguments pour contrer ou démanteler les arguments de l'adversaire, qui est considéré comme un adversaire en face. Quand j'ai commencé à lire en sciences humaines, parce que c'est pas là-dedans que j'ai étudié d'abord, quand j'ai commencé à lire en sciences humaines et sociales, ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'avais l'impression d'être dans une grande chicane. Fait que maintenant, on m'a donné des sciences humaines et sociales, je peux faire la grande chicane. Tous les textes commencent par « Oh, moi, c'était n'importe quoi, à partir de maintenant, nous allons penser comme ça. » Puis là, ça s'engueule, tu sais. Fait que là, c'est ça à quoi je vous invite, c'est jouer à ce que j'appelle, moi, jouer à Proxit. Pas juste moi, en fait, mes amis, on joue beaucoup à Proxit. Je vais vous montrer un peu un petit modèle de quoi ça peut avoir l'air, jouer à Proxit. Jouer à Proxit, ça veut dire s'entraîner à construire des idées collectivement. À entendre ce que la personne qui est en face de nous nous dit, à l'entendre de manière à comprendre où est-ce qu'elle se situe, dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit, dans quel champ relationnel est-ce que ça s'inscrit, et entendre l'idée qu'elle nous pose, qu'elle nous expose, qu'elle déploie devant nous, comme autant de petites cellules avec lesquelles on peut entrer en interaction. Je vous invite à entendre, c'est ce que je vais vous faire, je vais vous placer un certain nombre d'idées sur la table, et ce à quoi je vous invite, c'est à réfléchir à ce que je vous dis, à m'entendre, non pas en cherchant la certitude en vous que vous allez pouvoir maçonner sur la gueule après, mais à m'entendre en vous demandant comment est-ce que ça interagit avec vous. Comment est-ce que ça relance certaines de vos doutes, de vos réflexions en construction? On est dans une situation sociale ici, c'est super difficile de prendre la parole publiquement, ce qui fait que dans des débats ou dans des périodes de questions et réponses, on a tendance à toujours dire ce qu'on sait déjà. Comme ça nous fait bien paraître, puis comme ça nous permet d'affirmer notre autorité. Et ce à quoi je vous invite, c'est au lieu d'être en train de vous demander comment est-ce que vous pourriez bien contrer ce que je suis en train de vous dire, je vais plutôt vous demander comment est-ce que vous pouvez entrer en relation avec moi. Ce que je vous montre ici, c'est un dictionnaire de proxémie. J'adore ce truc, c'est absolument extraordinaire, ça se trouve sur Internet, c'est facile. Et la manière dont ça fonctionne, un dictionnaire de proxémie, c'est que quand on rentre un mot dedans, ce que ça nous donne, c'est le champ des relations qu'a ce mot ou cette idée avec l'ensemble des autres mots et des idées qui lui sont liées par le sens. C'est un dictionnaire qui est basé sur l'usage. Fait que les idées qui sont reliées les unes entre elles sont choisies selon la fréquence d'utilisation par les utilisateurs. Souvent, c'est très révélateur d'observer quels sont les mots qui sortent quand elle donne un mot. Ici, j'ai mis plaisir, par exemple. C'est de même, hein? C'est juste anodin. Et quand on regarde à quoi on relie plaisir, on va voir un certain nombre de choses. Puis la grosseur des idées, c'est la fréquence d'utilisation des boules, en fait, pas des idées, mais. Fait que là, ce qu'on voit autour de plaisir, c'est qu'il y a régal, il y a divertissement, il y a réjouissance, il y a réjouissance aussi, j'imagine. Il y a joie, il y a hédonisme, il y a volupté, il y a distraction, il y a pâtisserie. Il y a épicurisme, il y a gaieté, mais il y a aussi débauche. Il y a contentement, il y a félicité, il y a euphorie, il y a lascivité. Il y a amour, il y a récréation, douceur, licence, luxure. Alors on voit que les connotations, j'ai apporté un petit peu. Les connotations et les dénotations ne sont pas les mêmes. Les dénotations, c'est ce que le mot veut dire. La connotation, c'est ce à quoi elle réfère dans nos imaginaires. Je vous invite à garder ça en tête et au moment où on va ouvrir la période d'échange, on va aussi jouer à Proxit. Mais je reviendrai. Ce que j'aime bien dans Proxit, c'est qu'il y a proximité et qu'il y a mouvement d'une idée vers l'autre. Ce qu'on va chercher à faire, c'est voir comment nos idées interagissent les unes avec les autres. Comment elles sont soit très proches, soit plus éloignées. S'il est possible qu'il y ait des irréductibles, que les idées ne puissent pas se connecter entre elles, qu'on ait des désaccords fondamentaux sur lesquels on ne peut pas s'entendre. Mais ce que je vous demande, c'est qu'on réfléchisse en termes de rendre transparent comment est-ce qu'on se rapproche ou comment est-ce qu'on s'éloigne, plutôt que de chercher à se planter. Pour moi, faire ça, c'est une action féministe importante. C'est une action féministe importante parce que ça permet de maintenir du lien entre les individus, entre les personnes qu'on est. Ça permet de solutionner un grand nombre d'écueils de rupture de communication. Ça permet aussi... c'est sexy, quoi. En ces deux minutes. On va continuer avec ça. On va garder ça en tête tout le long, le Proxit. Et puis pour embarquer dans, disons, dans le... un petit peu plus avant, dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire que je ne vous tiendrai pas un discours contre la porno et contre le travail du sexe. Moi, en fait, la porno, j'en fais. Je me prépare à tourner mon premier film le mois prochain. Je vais vous en parler. Je ne tiendrai pas un discours contre le travail du sexe non plus. Ce discours-là, cette discussion-là est vraiment super compliquée. Ça soulève des passions. C'est super difficile de démêler les affaires là-dedans. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis... même si je ne vais pas vous tenir un discours contre la porno, pour utiliser encore cette forme-là, je suis absolument énervée et révoltée par le sexisme qui est présent, prégnant dans la société dans laquelle je vis. Je suis complètement agressée par l'ensemble des publicités sexistes sur lesquelles je bombe à tous les coins de rue. Je suis complètement révoltée par à peu près l'ensemble des systèmes d'oppression et de domination dans lesquels on fonctionne, ce qui inclut les dominations économiques, ce qui inclut l'exclusion, ce qui inclut notamment et aussi la manière dont les systèmes d'oppression effectivement imprègnent le rapport à la sexualité. Je ne dirais pas qu'il y en a pas, c'est pas vrai quand même. Quand je vois entre des gens qui s'aiment par ailleurs, s'infiltrer à l'intérieur de leur rapport des glitches, des empêchements de rencontre et des ruptures de communication qui sont dues à la manière dont on a intégré le petit sexisme ordinaire, ça m'énerve. J'ai envie de sortir mon anarcha 47. Je suis très en colère contre tout ça et c'est important de le dire aussi parce que c'est pas parce que je tiens un discours pro-sexe et que je vais vous parler de pornographie de façon positive que ça veut dire que je ne suis pas révoltée contre ce qui est de la domination et de l'esclavage. L'esclavage, quand tu travailles du sexe, quand c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavage. Des enfants qui travaillent dans des plantations de cacao, c'est de l'esclavage. Il y a une quantité phénoménale de gens qui travaillent dans des sweatshops ou dans des conditions d'esclavage partout à travers la planète et c'est révoltant. Fait que parler de manière différente de ce qu'on a pu entendre plus tôt, du travail du sexe, de la pornographie ou tout ça, ça ne veut pas dire endosser l'esclavage. On va parler donc de trois choses. Et avant de procéder, nous allons dès maintenant immoler ce terme de préliminaire. Car ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai qu'une baisse commence à partir du moment où il y a une pénétration. Non. Ce que je suis en train de faire là, vous croisez là, c'est déjà de la sexualité. Quand on les caresse, les rencontre, la communication, c'est la sexualité. C'est pas vrai, ça, que ça commence à partir du moment où... C'est vrai qu'on le voit beaucoup, qu'on réduit les expériences, disons, les pratiques sexuelles à ça dans un bon bunch de l'industrie de la pornographie. Mais c'est vrai aussi dans à peu près l'ensemble du cinéma hollywoodien, dans lequel on voit généralement des filles jouir à plus pouvoir, c'est une pénétration qui en finit plus, esti, de même. D'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la majorité des femmes qui ne savaient pas jouer pantoute. Il faudrait savoir. Il n'y a pas que la porno qui colporte ce genre d'idée. Et ça, ça s'infiltre jusque dans nos rapports les plus intimes. C'est vrai que les abus sexuels, c'est ultra présent. Il n'y a pas une femme qui n'a pas vécu une pénétration à laquelle elle n'avait pas consenti pleinement. Pas une. Et à répétition. Et ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un gars non plus qui n'a pas vécu ce moment-là. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est des gros méchants. Non. Mais ça veut dire aussi que souvent, on ne sait pas quoi faire avec ça, par exemple. Chacun dans nos positions. On va continuer dans nos positions. Comme moi. Je vais donc vous parler de petits sexismes ordinaires, de quelle manière est-ce que ça infiltre tous nos rapports. On va parler de porn, puis on va parler de porn féministe. Ça va être comme nos trois grandes boules.
Et
là, je sais pas par quelle commencer. Fait que j'ai envie de dire, on va commencer par porn. Là, je vais demander votre collaboration. On va ensemble, peut-être juste si vous pouvez me shooter, ce qui vous vient en tête quand on parle de porn. Pour qu'on sache, parce qu'on soit ensemble, en fait, dans tout ça, et que tout ne vienne pas nécessairement de moi, qui a un micro, qui est sur une tribune, qui a un spot, qui est en plein pouvoir d'autorité. On est dans un jeu d'options-soumissions, vous vous rendez pas compte. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez ce qui vous vient en tête quand on dit porn. À quoi vous pensez?
Internet.
Comment? Oui, sexe, oui, ça, c'est la base. Ensuite, porno. Pensez porno, là. Film. OK, on continue. Allez-y, vous êtes timides. Allez. Hein? Effectivement, ça décrit. Puis ce qui vous... Imaginez dedans, là. Image, film, exercice, oui, OK. Jus! Ah! All right! OK, on continue plus cru. Allez-y. Oh. Éjaculation féminine. Toi, quand t'entends porno, tu penses éjaculation féminine. Nice. Merci. OK, éjaculation féminine. OK, orgasme. Quoi d'autre?
Acteur.
Oui, acteur. Acteur? Acteur ou acteur, actrice?
Acteur,
actrice. Ah, mais c'est important, hein?
Yeah,
acteur, actrice,
sueur,
hein? Dans le cul. Quoi d'autre? Argent.
Souffrance.
OK, nice. Oui, OK, wow, j'arrive pas à tout écrire, c'est important. OK, argent. Là, c'est embêtant, mais j'aurais dû faire un petit tableau, là, mais c'est pas grave. Hein. Argent, j'ai entendu quoi? Souffrance.
Violence.
OK, ben tiens, on va y aller comme ça.
Soumission.
Soumission. Domination.
Abonnement.
Oui. Je sais que j'en ai manqué un là, que j'ai entendu dans ce coin-là tantôt.
Lingerie.
Fouet. Ah, jouet. Ben, fouet. Jouet.
Limite d'âge.
Péché. Addiction, péché. Oh, lesbienne.
Péché, vierge.
Addiction.
Oui, orgie.
Ah,
je ne tournais plus ici. Orgie. Soumission, c'est qui
Nymphomanie.
Perversion.
Perversion.
Yeah!
Ok.
Jardinier.
Policier.
Ok, on voit un petit peu le. On voit un petit peu le champ lexical qui est. Ça me donne un petit.
Plastique.
Ça me donne un petit désir. C'est pas, pas long? Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Vous voyez ce qui est écrit en haut là? Ah ouais? Lubrifiant, oui. Alors j'ai mis, pour ceux qui ne voient pas, j'ai mis tout ça en fente, gros sexe. Et my goodness, je pensais que j'allais avoir le temps de le faire avec une fente. J'ai pas de police. Ce qu'on observe quand on regarde la police du groupe sexe, c'est qu'il s'agit d'une déclinaison de positions sexuelles qui sont pour la très grande majorité axées sur la pénétration et en tout cas sur les pénis. Ouais. Le champ lexical est plus diversifié que ce que je pensais. Je vais vous l'avouer franchement. Je pensais et j'anticipais qu'on allait être davantage uniquement dans le registre de la domination, de la soumission, de la violence, de l'absence de consentement, etc. Ça me fait passablement plaisir de voir que votre champ lexical est plus diversifié que ça, parce que ça me permet de penser aussi qu'effectivement, on a un certain sens critique quand on observe toutes ces images-là et qu'on n'est pas juste des espèces de, comment dire, grosses méchantes porno, grosses influences sur la société, nous, pauvres victimes passives et sans aucun espèce de cerveau, comme des grenouilles décérébrées, à prendre toutes ces images-là comme si on les avalait et qu'on n'était pas du tout en interaction avec tout ça. Ça me fait assez plaisir de voir ça. Cela dit, quand je dis ça, je ne nie pas le fait qu'il existe effectivement à l'intérieur de la masse d'images pornographiques qui sont produites des reproductions de rapports de domination constants. Effectivement. Là, je suis un peu en relation avec ce que j'ai entendu plus tôt, mais ce que j'aimerais dire, c'est que si y a parmi un paquet d'affaires qui m'énervent, qui me font pogner les nerfs, là, qui font même. Il y a notamment la démagogie, la condescendance et le mépris. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Et ce qui m'énerve aussi quand je lutte, moi, contre toutes sortes de rapports de domination, et notamment le sexisme, parce que c'est beaucoup là-dessus que je travaille, ce qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est quand on se met à chercher des gros méchants, des gros méchants, puis que là, on est complètement occupé à dénoncer les gros méchants. C'est essentiel de le faire, là. Mais à dénoncer les gros méchants, c'est bien pratique de dénoncer les gros méchants parce que ça permet de ne pas s'en garder soi. Parce qu'on n'est pas les gros méchants, on n'est pas les trous culs. Mais il se trouve qu'un rapport de domination, ça existe parce qu'on l'intériorise. Parce qu'on intériorise les conditions qui font en sorte que se réalise, se manifeste des rapports de domination. Les conditions qui existent dans ma société qui permettent que se réalisent des rapports de domination dans l'hétérosexisme, et parlons d'hétérosexisme aujourd'hui, elles se manifestent de multiples façons. Elles se manifestent partout. Elles se manifestent aussi dans... en fait, elles émergent, elles apparaissent dans mon milieu de travail, elles apparaissent dans mes amis, elles apparaissent au détour d'une conversation, elles apparaissent au café où je prends un café. Tous les matins, j'en entends une. Il n'y a pas un esti matin où j'entends pas un commentaire sexiste ou une attitude qui révèle avoir intériorisé un comportement sexiste. Tous les jours, il y en a. Au détour de... Puis là, est-ce que c'est la porno qui influence la pub ou est-ce que c'est les conditions de ma société qui, notamment... Et notamment complètement imprégné d'une espèce de besoin de profit galopant, là, avec une espèce de capitalisme complètement débridé, absolument exubérant, exhibitionniste et porno, quoi. Hein? Qui se réalise notamment dans la pub, entre autres, et qui se réalise dans le comportement. Je vais m'arrêter là. Ce que j'essaie de pointer, c'est que les conditions existent dans la société pour fabriquer des rapports de domination, dont l'hétérosexisme, et que c'est ces conditions-là que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, entre autres. C'est vrai que dans l'industrie de la porno, on raréfie la diversité des pratiques sexuelles proposées. C'est vrai qu'il y a du sexisme et qu'il y a du racisme à l'intérieur de ces images-là. C'est vrai, de vrai, de vrai, de chez vrai. Dans la grosse industrie, c'est vrai. Il faut effectivement être vigilante et regarder. Il faut regarder aussi tous les téléromans. Il faut regarder aussi tous les films. Et démasquer là-dedans, qu'est-ce qui nous... avec quoi on est en interaction, puis qui continue d'alimenter nos imaginaires, dans lesquels les personnages dans lesquels on se projette, qui nous renvoient une image de nous comme filles ou de nous comme gars, puis qui renforce en même temps des comportements qu'on apprend dès tout petit, dès l'école. Aller observer des cours de récréation d'école primaire suffisamment de jours de suite pour observer comment est-ce qu'on distingue l'éducation des petits garçons et des petites filles, ben c'est plus terrifiant qu'un film de David Lynch. C'est absolument effrayant de voir ça. Puis là, je parle en termes de garçons et de filles. On fabrique une ségrégation entre deux genres. On s'imagine qu'il y a deux sexes et deux genres, des gars et des filles, puis on les polarise, puis on crée une espèce de grand canyon entre les deux, comme s'il n'y avait rien là, de diversité entre les deux. Il y a un truc que j'aurais voulu vous dire avant, je vais quand même le dire. Ce dont je vous parle aujourd'hui est beaucoup imprégné d'une observation de ce qui se passe dans les rapports hétérosexuels. Je le dis... c'est important parce qu'on aurait tout à gagner aussi à ajouter d'autres éclairages, à ajouter un éclairage queer, à ajouter un éclairage, d'autres éclairages sur ce que je suis en train de dire. Fait que je le mentionne pour qu'on le sache, qu'on puisse amener d'autres boules sur notre proxy aussi. Je ne suis pas strictement hétérosexuelle, je ne suis pas une orthodoxe dans grand-chose comme là-dedans. Je m'en fous complètement, moi, de ce qu'il y a entre les jambes de mon partenaire, de ma partenaire de jeu. Cela dit, si on regarde comme il faut, il est vrai que la majorité de mes expériences significatives relationnelles ont été des expériences hétérosexuelles. Toute ma société fait en sorte que c'est comme ça que ça va se passer. C'est bien plus facile, même. Je sais comment ça marche. De la même manière, c'est facile. C'est bien plus compliqué, nous. Ça demande plus de travail. Et ce que ça révèle aussi, c'est que les personnes qui vivent dans des situations de marginalité, elles connaissent ou défavorisées dans le rapport de force. Généralement, elles connaissent beaucoup mieux l'univers mental, imaginaire, les codes culturels du groupe dominant. Parce qu'ils sont obligés d'être en relation avec. Ce qu'on observe aussi dans les rapports de domination, c'est que les groupes dominants, souvent, c'est plus facile de faire un. Puis que c'est super confrontant de se faire dire hé oh, hé oh. Puis si on a besoin, si on veut en venir à bout des rapports de domination, on a besoin que les deux groupes bougent l'un vers l'autre, qu'on soit pour eux, qu'on accepte la contamination, l'écoute, puis le mouvement, puis qu'on se rend compte qu'on a énormément à gagner à des rapports égalitaires dans lesquels les choses circulent. Revenons à l'école primaire. Dans la fabrication des identifications de genre, il y a notamment une formation à ce que sont nos patrons relationnels. Là, je pourrais élaborer en long et en large, on pourrait raffiner, on pourrait définir beaucoup. Je vais juste énoncer, c'est presque 15 minutes, ça n'a pas bon sens, cette affaire-là. Je vais juste énoncer deux, trois affaires, parce qu'il faut que je vous parle des... Quelle minute, Bruno? Ah, God damn it. OK. Dans ce qu'on fabrique, dans les rapports, quand on éduque les petits garçons et les petites filles, on éduque, je vais le dire vraiment super rapidement, on éduque beaucoup les petites filles à être leur relation et à avoir des choses à faire. On éduque beaucoup les petits garçons à être ce qu'ils font et à avoir des relations. Quand ça essaie de se rencontrer, ça parle, ça fait le communication breakdown. On éduque beaucoup les petites filles à chercher à partager le pouvoir. On éduque beaucoup les garçons à fonctionner en rapport de force puis à échanger le pouvoir d'une tête à l'autre, chacun son tour. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est une personne qui pense le pouvoir selon un échange d'une tête à l'autre avec une personne qui cherche à partager le pouvoir. Ça désole. On éduque les filles à prendre une responsabilité du lien et de l'affect au détriment de soi. Alors qu'on fait vivre des expériences de honte aux petits garçons lorsqu'ils se montrent vulnérables ou lorsqu'ils se montrent attachés à une relation. Qu'est-ce que ça fait en grandissant? Ça fait de la peur, panique, au moment où il est question d'affect ou de relation. Ça fait du désarroi quand, au moment d'une relation sexuelle, il y a une fille qui demande à maintenir du lien. Puis qu'il y a un gars qui a besoin d'être axé sur le résultat. Fille processus, gars résultat. Ça aussi, ça fait des énormes communication breakdowns. Ça génère énormément de souffrance. Ce qui nous amène à parler de porno féministe. Qu'est-ce qu'elles font, les filles qui font de la porno féministe? J'ai changé tout ça ici, là, juste pour le petit côté performatif de l'affaire. Je vais le mettre en consolace. Les filles qui font de la porno féministe... Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais je pense que je vais vous montrer. Ah, tant pis. Les filles qui font de la porno féministe, je vais vous présenter quelques-unes. Il y en a plein, en fait, depuis 5 ans, ça explose. Ça explose. Il y en a, là, mais de plus en plus. Je vais vous en nommer quelques-unes. Tristan Taormino, Shine Louise Houston, Maria Lepis à Barcelone, Il y en a plein, il y en a de plus en plus. Le Urban Fun Collective en France, il y en a des tonnes. Ça a commencé déjà dans les années 80, il y en avait, ça commençait, mais là, c'est ça. Depuis les 5 dernières années, c'est une espèce d'explosion de femmes et de queer qui mettent la main sur la porno et qui se mettent à en faire. Et à en faire selon leurs propres critères. Ce qu'elles partagent toutes ces personnes, il n'y a pas beaucoup de gars, je n'en ai pas trouvé, si vous en trouvez. Je veux savoir. Ce qu'elles partagent toutes, c'est déjà une attitude qui est positive par rapport à la sexualité. Ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on se questionne aussi, qu'on garde en tête, c'est qu'on se demande de quelle morale il s'agit, de quelle morale on se revendique quand on a une réflexion sur la sexualité. Qu'on ait des repères ou moraux, c'est normal, on en a besoin. Ce qui m'énerve, moi, c'est quand, dans le discours, dans l'obstination sur le travail du sexe ou la prostitution, on fait semblant que nos positions, elles ne sont pas basées sur des a priori moraux. Fait que là, je ne vais pas vous obstiner à essayer de vous faire comprendre que mes a priori moraux sont mieux que les vôtres, etc. Mais j'aimerais bien qu'on se demande c'est lesquels. C'est quoi notre rapport moral à la sexualité? Ce que font, la priori morale que prennent ces personnes-là quand elles font de la porno féminine, c'est d'abord une attitude positive par rapport à la sexualité. C'est-à-dire que ça fait partie d'une expérience fondamentale des êtres humains, qu'on diversifie la possibilité d'expression, que c'est une source de créativité, que ça peut être une expérience de spiritualité pour certaines ou pas de jeu simplement pour d'autres, ce qu'elles partagent toutes, c'est une volonté, une impulsion très forte à libérer notre rapport à la sexualité et à libérer aussi nos rapports aux relations. Elles ont une pensée sur la relation aussi. Ce qu'elles font aussi, c'est faire en sorte que les femmes s'emparent En fait, elles font une lutte, elles font de la guérilla des communications, elles s'inscrivent à l'intérieur des médias. Il y a plein d'autres femmes qui ont un discours ou une action positive, c'est un discours positif de la sexualité. Il se trouve que les femmes qui font de la porno féministe ou post-porn investissent un champ médiatique. Et la raison pour laquelle elles font ça, notamment, en plus du fait d'être un peu exhibie puis d'aimer ça, en plus du fait d'avoir envie de participer à faire en sorte qu'on puisse faire évoluer nos pensées et sur la sexualité, mais et sur la manière de le vivre ensemble. Il y a un fait qui est notable, c'est qu'il y a plein de femmes qui font de la porno, qui réalisent la porno féministe, qui sont queer, bisexuelles ou lesbiennes, et font de la porno hétéro. C'est pas anodin. Et c'est notamment pour permettre de faire en sorte qu'on diversifie ce qu'on voit et que on y trouve des alternatives. Parce que, tu sais, ça, là, va et vient. Tu vas où, Calice? Puis moi, je viens dessus. Ce qu'elle partage aussi, c'est... une variabilité des expériences sexuelles, une variabilité des corps, la permission que nos corps puissent tous être envisagés comme étant chargés d'une énergie qu'on peut partager avec les autres, qu'on peut construire avec les autres, qu'on peut construire une dynamique sexuelle avec des gens, sans être selon des formats très, très. Les femmes qui font de la porno féministe, elles ont aussi une lutte contre le racisme. Elles ont aussi réagi au racisme à l'intérieur de l'industrie de la porno. Et elles construisent des images corporelles qui luttent aussi contre les stéréotypes de race, de sexe, de race, de genre, de pratiques sexuelles. Elles ont, pour la plupart, aussi Tristan Tarmino, par exemple, a une maison de production qui s'appelle Smile Ass Production, dans laquelle elle produit des films de fiction. Elle a aussi toute une collection qui s'appelle Vivid Head et qui produit des films éducatifs. Alors, sa dernière parution, c'est The Expert Guide to Anal Sex for Men. Massive. Grandiose. Et extraordinairement subversif. Alors, je vais vous raconter celle-là parce que là, mon temps s'achève et après ça, on va pouvoir échanger. Dans le Expert Guide to Anal Sex for Men, elle fait un truc absolument extraordinaire. Plein de trucs absolument extraordinaires. D'une part, elle met le plaisir de l'avant, d'abord. Puis elle fait un autre truc aussi. Déjà, Tristan Tarmino, la semaine dernière, j'étais au Feminist Porn Award à Toronto. Elle a reçu un prix pour... un prix féministe pour ses films porno, mais elle reçoit aussi des prix à l'intérieur de l'industrie mainstream. Ce que font ces filles-là, notamment, c'est infiltrer l'industrie mainstream. Et on disait à l'intérieur de l'industrie mainstream, des corps plus diversifiés, des pratiques plus diversifiées. Tristan Tarmino, c'est une éducatrice aussi. Ce qu'elle raconte de comment se passent ses tournages, puis c'est vrai aussi dans l'Expert Guide to Anal Sex for Men, elle érotise le consentement. Alors, ce qu'on voit à l'intérieur, dans une des scènes, par exemple, d'Expert Guy, sur Anal Sex for Men, on voit un gars qui est là, tout à fait disponible. Comme ça. Et ce qu'elle raconte, c'est que ça a été la croix et la bannière pour réussir à trouver un gars à l'intérieur des acteurs porno pour réussir à tourner cette scène-là. Ça a été super difficile parce qu'à l'intérieur de l'industrie de la porno, il y a aussi des codes qui sont les mêmes que dans la société en général. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un gars qui allait accepter d'avoir l'air soumis. Alors les filles, elles peuvent être soumises bord en bord, ça ne pose pas de problème. Mais les gars, compliqué. Là, ce qu'a dit Tristan Tarmino, c'est que là, on n'est même pas à l'intérieur d'un jeu de rapport de pouvoir, de rapport de domination-soumission. En faisant ça et en ayant un gars qui accepte de faire ça, d'une part, ce qu'elle lance comme message, c'est qu'il est possible de juste prendre plaisir et de découvrir nos pratiques sexuelles à l'intérieur d'un lien, d'une relation et d'une communication avec une autre personne. Dans le Expert Guide, on voit une fille qui est en train d'apprendre comment faire des stimulations anales plaisantes à son partenaire, qui apprend, lui, à donner l'information sur ce qui lui fait plaisir, à l'évolution, les changements à l'intérieur de son plaisir à elle et à construire ensemble le consentement mutuel. Il y a une érotisation du consentement. C'est pas du chit-chat, talk-talk fatigant parce qu'on a d'autres choses à faire plus importantes. Non, ça fait partie du processus. Ça permet aussi de désacraliser, de rendre tout ça moins solennel et moins officiel. On peut rire, on peut se tromper. On peut dire, ah, ben finalement, ça n'aime pas trop ça, est-ce qu'on pouvait passer à ça? Et ça fait en sorte que les gars se libèrent de l'obligation de la performance et d'être en contrôle de tout. Et les filles se libèrent de l'obligation d'être disponibles et passives. Et aussi d'être la fatigante qui demande toujours à parler. Parce qu'elle prend la responsabilité du lien et que ça se passe bien entre les deux, c'est fatigant, ça le discrédit. Le sexisme, il existe. Pas parce que les comportements sont nécessairement différents, parce que le pouvoir est pas symétrique, hein? Puis parce qu'on valorise un, puis qu'on discrédite l'autre, puis que son l'intériorise. Shane Louise Houston, elle dit un truc magnifique, c'est une artiste, Shane Louise Houston, elle a étudié en cinéma, et elle parle de sa démarche de création, l'ensemble de ces réalisatrices-là parlent de leur démarche de création. Et ce qu'elles font, c'est tourner des scènes dans lesquelles on demande aux personnes qu'est-ce qu'elles ont envie de tourner, c'est quoi leur désir, c'est quoi leur limite, qu'est-ce qu'elles auraient envie d'explorer davantage, où est-ce qu'elles auraient envie d'aller. Puis à l'intérieur de l'industrie de la porno, elles transforment aussi les relations, les rapports de genre. Il y a l'éducation qui se fait à l'intérieur. Elles donnent des ateliers sur les relations aussi à l'extérieur de ça. Shane Louise Houston, elle travaille comme une artiste. Elle dit « sex is beauty ». Et elle travaille comme une artiste à représenter la sexualité humaine, à construire le désir, à construire la sensualité, à construire le plaisir, à saisir les énergies des personnes, la construction commune des énergies des personnes, puis à le rendre recevable à l'écran. C'est une artiste. Je vais laisser tout ça en suspens pour qu'on puisse ouvrir sur un échange. Je vous demande de garder en tête le proxit, n'est-ce pas? Proxit. Je pense que je vais lui mettre un petit reminder. Proxit. Et puis on va échanger un peu. Puis, mais juste avant, il y a un autre truc qui me passe en tête. Juste une idée de Maria Lopez, parce que je voudrais bien la nommer aussi. Maria Lopez, elle travaille depuis plusieurs années. Elle était avec les Girls Who Like Porno avant. Maintenant, elle a un site web qui s'appelle Maria Lopez. Maria Lopez, juste un petit truc que je vous lance avant qu'on ouvre l'échange. Elle s'est interrogée, elle, à pourquoi à partir du moment où les femmes se sont mises à faire de la porno, est-ce qu'elles ont tant fait de scènes sadomaso? C'est vrai, hein? Et hard, puis trash. D'ailleurs, hardeur et hardeuse, là, c'est le nom que se donnent les acteurs et actrices de porno. Hein? C'est elles-mêmes, autodétermination, oui. Qui se donne ce nom-là. Maria Lopez a dit un truc, elle s'est dit ça me fatiguait quand même de voir à quel point on a dû passer par ça et reproduire des rapports très très violents et très très domination. Puis ce qu'elle dit, c'est parce qu'on a tous des petits chapons rouges en nous. On a intériorisé l'image en nous, là elle parle de femme, parce qu'elle parle de femme qui réalise la porno. On a intériorisé l'image du petit chapeau rond rouge. Puis pour réussir à faire en sorte qu'on puisse établir des rapports égalitaires qui circulent, on n'a pas besoin d'être le loup un peu pendant un temps. Ou d'enculer le loup. Mais après ça, pour qu'on puisse établir un échange puis une relation, ça prend aussi que les deux bougent et qu'au moment où la peur, où la défensive se fait sentir, on puisse prendre un grand respire. And go with the flow. On va ouvrir l'échange. Il est possible de me parler à moi, mais il est aussi possible de parler entre vous. On n'est pas obligé de garder cette espèce de rapport de même. Et puis, dans les tours de parole, moi, je vous rends transparent que j'ai une petite vigilance à ce que des personnes qui n'aient pas encore parlé puissent parler avant d'autres. Et qu'on observe aussi si les gars et les filles et toute personne identifiée à un autre genre ont de l'espace également pour parler, en fait. Alors, tout le monde?
Je peux peut-être le prendre le micro, celui-là, pour se promener.
Certainly. surprise.
Vous avez dit tout à l'heure en introduction, je vous montrerai pas d'images trop machin.
Non, je vais montrer.
Mais je pensais qu'on enverrait des images.
Ben oui, c'est que je parle trop.
Ben il n'y a pas moyen de vous en montrer.
Oui. Attends, je vais aller chercher. Je vais essayer d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est les strapettes. Les strapettes de Those Girls, The Urban Punk Collective, elles sont à Lille. Elles font toutes sortes d'actions, ben, notamment des actions de visibilité trans et contre l'homophobie. Celui-là, c'est celui que je voulais vous montrer. J'espère qu'il va se télécharger. Ça, c'est une des fois où on est devenu le loup. C'est rigolo, là. Elle marche. Je ne peux pas le mettre en full screen. Profitez-en pour regarder leur lien à côté, là. pour en être devenu le nom. Je laisse en faire l'analyse. Donc, les voix, non?
Oui!
Ben oui, c'est chiant ça, vous voyez pas. Il y a du moyen de s'infiltrer dans les interstices. Ben la description, c'est grosso modo un jeu avec une carotte. Qui représente évidemment, vous aurez compris. Et on joue avec toutes sortes de codes lapins, c'est-à-dire c'est la fille, c'est une fille qu'on voit qui se frotte la carotte un peu partout, qui joue avec une pénétration, qui peut venir par râper la carotte. Il y a un petit jeu avec le viol aussi, parce que c'est rape, carrot, porn. Il y a aussi toutes sortes de jeux d'humour en disant « porn is not dead », puis « the rabbit is so hot », fait qu'il y a une réappropriation aussi du personnage du lapin. Elles ont entre 20 et 25 ans, ces filles-là, and they are coming. Je peux vous montrer... ça te tente-tu d'essayer de vous infiltrer? Il y a de la place en avant, il y a de la place... Je peux vous montrer... Pendant que les gens se déplacent, vous pouvez quand même entendre, on entend quand même. On peut peut-être avant de vous montrer un autre film, parce que dialoguer. C'est le sexisme qui est présent dans toutes nos interactions et qui n'est pas nécessairement objectifiable dans le gros méchant. Hein? Les gros masculins, la grosse femme, la grosse fille, gros pas fin. Le sexisme il se réalise dans tous nos comportements et dans toutes nos relations de tous les jours. Et c'est à chacun et à chacune d'entre nous d'observer qu'est-ce qu'on a intériorisé, de quelle manière est-ce que nous on interagit, de quelle manière est-ce qu'on reproduit les rapports de domination entre les genres. Et de quelle manière aussi est-ce qu'on peut se responsabiliser et transformer nos comportements, parce que c'est l'affaire de chacun d'entre nous.
Une question
d'un
à l'autre.
Oui. Les deux. Parce que, you know, I'm such an integral girl. C'est pas pour rien, en fait. C'est aussi pour être dans l'action. Puis au moment où tu fais les choses, tu es aussi directement en train de transformer. Puis parce que aussi, je pense que le blablabla, si on n'est pas capable d'être conséquent avec ce qu'on raconte, ça ne sert à rien. En fait, c'est observer un certain nombre de choses, mais c'est dommage. Puis il y a un autre truc aussi que j'ai envie de rajouter sur la réalisation d'un film porno. Ça fait longtemps que j'y pense, puis j'étais intimidée pour toutes sortes de raisons, mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que la raison, il y a un certain nombre de scènes sexuelles que j'ai envie de faire dans ce film-là, parce que je ne les ai pas vues ailleurs, et c'est aussi ça, be feminist, do porn, réaliser les images que vous voulez voir, les transmettre et diffuser. Mais c'est aussi parce que je me sens plus safe à l'intérieur d'un set dans lequel on tourne la porno, entouré de gens qui ont une attitude sex-positive, je me sens plus safe je suis plus confiante que le consentement va s'établir et que le dialogue sera présent à l'intérieur d'un set avec une caméra braquée sur moi qu'à l'intérieur de bien de mes relations amoureuses. Parce que là, c'est compliqué, parce que ça soulève de l'affect. Puis parce que mon partenaire masculin se sent sur la défensive et menacé, et qu'on vit un certain nombre de ruptures de communication dans lesquelles les deux sont malheureux, là. Ouais?
Oui, j'avais une question, en fait, qui me dérangeait un peu. C'est dans le film de porno, on marque que les gens s'embrassent presque jamais. Je veux savoir pourquoi les gens dans le film de porno s'embrassent pas, pourquoi il n'y a jamais cette espèce de lien.
Est-ce que j'ai envie de relancer ce qu'il y a, suite à ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de répondre à ma place? Je peux y répondre aussi, là, c'est pas une fille, mais c'est juste pour partir l'échange.
Il y en a deux réponses.
Oui?
Allô? Il y a probablement, en tout cas, selon moi, là, un côté vraiment trop intime, justement. Jusqu'à maintenant, la grosse majorité de l'industrie porno, à la base, c'est vraiment présenté comme une job, dans le fond. C'est pas un gars et une fille qui se connaissent, qui s'aiment et qui veulent partager quelque chose, sont là pour faire du cash, pour faire une job. Embrasser quelqu'un, il faut vraiment être excessivement prêt. C'est ton visage qui est collé contre la personne. Puis, je veux dire, on ne parle pas nécessairement d'un bec sec à la bouche, on parle de je veux dire, un beau French, quelque chose. C'est quelque chose d'excessivement intime, peut-être encore plus, je dirais, qu'une pénétration, quelque chose. Donc, en tout cas, selon moi, il y a beaucoup de ça, puis c'est peut-être c'est ça, trop personnel.
C'est parfait, j'en veux d'autres réponses, mais je veux juste nous ramener le Proxit en tête. On va regarder, on a une question qui est la question de s'embrasser. Puis là, on vient d'avoir une réponse qui parle d'intimité, qui a parlé d'amour, qui a parlé d'être moins et moins, qui a parlé d'argent, du fait que ça soit un job. Fait qu'on va mettre cette idée-là, genre ici, on a la question, on va mettre cette idée-là ici, puis on va amener d'autres idées, puis on va voir lesquelles sont plus éloignées, lesquelles, comment se relie chacune des réponses. Ouais.
Ben moi, personnellement, je pense que la pornographie, comme la plupart des gens la consomment, c'est une business qui fonctionne avec l'offre et la demande, comme toutes les business. Puis, quand quelqu'un regarde la porno, c'est pas pour voir des gens s'embrasser. La demande, c'est pas ça. La demande, c'est voir du sexe, c'est voir des pénétrations. Comme vous avez dit tantôt, on s'entend. Fait que les gens, s'ils ne veulent pas voir tout le monde s'embrasser, ils veulent voir tout le monde courir. C'est ça.
Ok, on a un autre élément de réponse ici. Moi, j'en ai une aussi.
C'est une réponse.
C'est un élément de réponse ou un instant? Un élément de réponse. Je pense que peut-être le fait d'embrasser quelqu'un, c'est pas ce qu'on a de plus excitant, quelque chose où les gens pensent plus à la pénétration ou des choses comme ça quand on pense au sexe. C'est peut-être ça qu'on a, dans le fond, appris d'une certaine façon, puis on limite un peu les effets du plaisir.
Ok, on va juste faire un petit regard proximique. Fait qu'on a, on a eu trois idées, il y a eu l'idée business, il y a eu l'idée intimité, hein? Mais entre business, entre les deux premières questions, il y avait des liens, il y avait travail et il y avait business, ça c'était assez proche. Par contre, on a eu offre et demande, économie qui allait par là-bas, on avait amour qui apparaissait ici. Puis là, on vient d'arriver à un autre élément, on va mettre en 3D. Un autre élément ici qui concerne... Ah, je voudrais reprendre exactement tes mots. Peux-tu juste m'en souffler? Quel terme toi tu as utilisé?
Tu dis que c'était, dans le fond, on a
plus excitant d'avoir une relation, oui, axée sur la pénétration. Les préliminaires, si, on n'a pas de préliminaires dans un film porno. C'est pas les préliminaires, ça n'existe pas, les préliminaires.
Il y a un autre
élément de réponse?
Je veux juste apporter le point, parce qu'on parle beaucoup de la porno, justement, qui est la pénétration et tout ça. Vous avez parlé un peu de la porno féministe, et il y a aussi le côté de certains films qui vont plutôt ressortir la sensualité. Seulement l'approche entre les deux personnes, juste avant cette pénétration-là, qui apporte le désir, qui est plutôt justement cette approche-là. Ça fait monter l'effervescence, le côté de la sexuelle jusqu'à un certain pic, où que après, ok, on va passer au côté bang bang bang. Mais juste la montée du désir sexuel que peut apporter le baiser ou que peut apporter la proximité de deux corps qui n'est pas directement dans l'acte peut être aussi sensuel, aussi sexuel que l'acte lui-même.
Mais est-ce que je peux te faire remarquer que tu fais encore une distinction entre l'acte lui-même? C'est quoi ce l'acte lui-même?
Ben, on parle de
pénétration. Tu parles de pénétration, mais on peut juste se débarrasser de ça.
Il n'y a pas nécessairement seulement la pénétration qui va être axée dans les films porno. Il n'y a pas juste ce côté-là.
C'est sûr que dans l'industrie de la porn, il y a un grand accent qui est porté là-dessus, effectivement. Kristen Tarantino, elle a fait tout un film sur le cunnilingus. Et qui m'en moins, effectivement. Parce qu'on s'imagine qu'effectivement, une baisse, c'est une pénétration. Franchement, on a du pas beaucoup d'imagination dans la vie. On est en train de construire notre. OK, on passe à des questions. On va juste passer notre boule de proximité. Il y a une dernière réponse. Julien, où est-ce qu'on en est dans le temps et dans...
On dépasse.
Il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Fait qu'on se rajoute une petite réponse, puis après ça, on ouvre deux autres sujets, deux autres champs proximiques.
En fait, moi, la réponse à laquelle pourquoi on ne voit pas les gens s'embrasser dans un film porno, c'est que le porno est conçu pour les hommes qui sont dans le résultat, donc dans la pénétration. C'est pas conçu pour les femmes. Voilà. Il n'y a pas de sensualité dans le film.
OK, on va poser ce champ proximique-là. Je vais juste répondre à ça. Et il est vrai qu'on a beaucoup surfé sur une pensée que le sexe, c'est une affaire de gars. Puis d'ailleurs, on méprise aussi beaucoup les filles. C'est peut-être un des trucs qu'on peut garder en tête en se demandant pourquoi est-ce qu'on a tellement de misère avec le sexe. Quand on méprise, si on se débarrasse du mépris, peut-être. Pensez pour les hommes. Ici, ce que ces réalisatrices, les porno féministes, les Tristan Termino, franchement, je pourrais donner une liste à Julienne pour que vous puissiez explorer tout ça. Justement, disent, nous sommes aussi des êtres entiers avec une sexualité, des êtres humains complets, hommes et femmes, des êtres humains complets. Je veux dire, ça aliène pas mal les gars aussi, t'imagines qu'ils sont juste un pénis, là. Et effectivement, de concevoir une représentation explicite de la sexualité pour l'ensemble des gens, d'où diversité sexuelle, diversité pratique, diversité... Oui. Est-ce qu'on ouvre un autre champ?
Il y a une question ici.
Il y a une question là, il y en a une autre là-bas.
Oui. Ouais. Ouais, bon, en fait, la question, c'est pas vraiment lié avec les pornographies, c'est en lien avec les genres que
vous
parlez au début, en fait.
Oui.
Avoir un peu, je sais pas, peut-être une idée ou des gens en fait sur le fait que les gens, c'est peut-être pas juste deux genres, mais plus une espèce de continuité. Donc, il n'y aurait pas une femme, il y aurait plus juste situé par rapport entre 0 et 5, je sais pas, l'imagine. Mais comme que tu peux en fait plus se positionner là-dedans, non, homme ou femme.
Puis là,
tu voudrais
que j'élabore un peu plus sur cette question.
J'élabore plus sur les gens, ils disent.
Est-ce que juste me montrer s'il y a des gens qui aimeraient intervenir sur la question des gens, et je vais préférer une personne qui n'aurait pas encore parlé, si tu permets. Des gens qui voudraient répondre, qui auraient des choses à dire sur la question des gens. Toi, sur la question des gens. Je vais juste localiser. Toi, sur la question des gens, on a deux gars, est-ce qu'on a une fille qui voudrait bien parler de la question des gens? Deux là. OK. Trois là aussi. OK, allons-y. Puis moi aussi, j'aurais des trucs à dire sur la question de l'autre. Peut-être on peut faire un gars, une fille, un gars, une fille. Fait que peut-être c'était le premier, puis après ça, on continue. Sur la question des gens. Oui, sur la question des gens. Sur la diversité des gens.
Oui, en fait, je voulais dire, c'est un peu plus long. Comme ça? Oui.
Là, je vais rappeler un truc.
Proxit. Ouais, c'est pas ça. Mais en fait, on peut dire que pareil des genres, d'une certaine manière, de pareil des hommes et des femmes. Puis t'as peur, t'as peut-être dit quelque chose à propos de ce que tu faisais, de ce qu'il y avait entre les genres de ton partenaire. Moi, je suis d'accord avec ça, mais tu t'en fous. Mais d'une certaine manière, il y a aussi l'aspect genre de procréation. Oui, genre, côté sexuel, on sait qu'est-ce qu'il y a dans ton partenaire, mais d'un autre côté, genre, tu peux pas t'en foutre. Genre...
Ben non, mais ça, des kids, il y en a en masse, en masse, en masse, en masse, on est tout le monde obligé de s'en occuper. Mais je, tu sais, je ne valide pas, c'est vrai, t'as raison, ça fait partie de la sexualité, la reproduction. C'est l'expérience de la... Il y a plein de manières de le dire, là, j'hésite. C'est même pas non plus une éditrice d'avant. Oui, notez, on met une boîte ici. On parle de diversité des genres et on a reproduction sexuée de l'espèce ici. Avec qu'est-ce que ça signifie, sa connotation alentour. Une autre boule. Il y avait, regardez-moi, là, j'ai pas localisé, vous étiez. OK, il y en a une là, il y avait toi. Il y avait un autre gars. Toi, OK. Diversité des genres.
Moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est jusqu'à un certain point, il y a un certain poids culturel qui vient embarquer là-dedans. Parce que même de nos jours, dans les relations qui deviennent de plus en plus diversifiées, on a tendance à quand même essayer de catégoriser les gens. J'ai des bonnes amies qui sont des couples lesbiennes, tout ça, mais même eux autres, j'ai tendance parfois à penser à tort à « Ah, elle, c'est l'homme du couple. » On essaye quand même, parce que c'est familier, parce que c'est sécuritaire, dans tous les aspects de notre vie, les attributs, on catégorise les choses parce que ça nous permet d'appartenir à quelque chose, de nous sentir sécurisé par l'appartenance à une catégorie précise.
D'où? Proxit. Oui. OK. Appartenance aux catégories. La pensée catégorielle, la pensée oppositionnelle et binaire. D'où ça nous vient? Un autre truc. Un autre boule.
Dans les en haut.
Ah oui, les en haut. On a... Ah, oui, OK. Peut-être les en haut qui sont laissés pour compte avant qu'on revienne dans le... Oui?
Oui. Un peu au niveau de la catégorisation, je trouve qu'on est très porté là-dessus. Mais peut-être pour répondre aussi au niveau du flou, je pense qu'il y a un très grand flou qui existe entre les hommes et les femmes. Surtout, par exemple, au niveau des transgenres. Puis que c'est un truc qui vient vraiment déranger les gens. Par exemple, une personne qui est née homme et qui décide de prendre des hormones, d'avoir des seins, de changer son nom, mais de garder son pénis, on n'est pas capable de donner un nom à ça, un genre à ça, mais pourtant c'est quelque chose qui existe, la personne est bien comme ça. Ou aussi des hommes qui décident de s'habiller en femme, mais qui vont garder leur barbe bien visible, le poil sur les jambes, on est comme... Qui es-tu? Veux-tu être un homme, une femme? Mais je pense que ça fait partie du tout. Je trouve qu'il y a la même chose aussi au niveau des femmes.
Il y a aussi des cultures dans lesquelles il existe les dispirited persons, il y a les ish rassonnels, il y a toutes sortes de catégories de gens qui en Occident n'existent pas, mais qui existent aussi dans d'autres cultures.
Je pense que c'est important de garder le flou entre les deux, que sur la catégorisation. Soit
qu'il est
homme, soit
qu'il
est
femme, mais
en tout cas,
moi, je ne
crois pas vraiment. Un peu rigide. Oui. Parlant justement de pourquoi tu trouves que tu fais une, de faire un sexe,
ouais.
L'espèce d'un sexe séparé, c'est parce qu'on a toujours été catégorisé, justement, comme on disait, mais dû par les stéréotypes qui sont donnés par notre culture, par notre éducation. Et ça risque aussi de durer. Mais l'important, donc, ce que je pense, c'est justement c'est de ne pas juger la personne. Si elle a envie de s'habiller en femme, elle s'habille en femme, si elle a envie. Si elle a envie de, justement, de rester catégorisée, l'important, ce ne serait pas de juger puis de provoquer, mais juste de garder un esprit ouvert. Et aussi, de pas éliminer, parce que ce serait utopique de dire ça, mais de porter moins, donner moins d'importance aux stéréotypes. Qui crée justement cette catégorisation du sexe féminin, du sexe masculin, des rôles qu'on doit jouer, etc.
C'est
C'est peut-être se faire des petits massages intérieurs aussi pour arrêter d'imaginer qu'on est obligé de se conformer à ces catégories-là, parce que ça peut faire pas mal de bien, pas mal de monde.
Il y a des choses que vous avez dites qui ont déjà été dites, mais il y a un autre point, j'ai l'impression que c'est pas plus difficile, mais on a l'impression dans la société aujourd'hui que c'est plus difficile pour un homme de l'avouer qui serait plus entre les deux. On a l'impression que soit l'homme est straight ou soit qu'il est dans des grosses divergences extrêmes, tandis que pour une femme, on entend souvent parler d'une femme sexuelle ou des choses, tu sais. Que là, on dirait qu'il y a vraiment une nuance, mais chez l'homme, ça a l'air de plus pas être avoué. C'est surtout à cause de le fameux orgueil masculin qu'on entend souvent parler. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour un homme, c'est beaucoup moins avoué que chez les femmes.
Je suis d'accord avec toi. Ça va avec les expériences de honte, puis de...
Premièrement, juste pour compléter quelque chose qu'il a dit, une des raisons pour lesquelles on voit plus souvent le phénomène de la bisexualité chez les femmes, c'est justement à cause de la pression que les hommes vont donner là-dessus.
Que la pression que les hommes vont donner pour...
Ben, plus ou moins, oui, parce que c'est plus accepté à cause de la domination mâle, moins selon moi, encore là, je peux me tromper.
Le tabou de l'homosexualité chez les gars, c'est ça. Entre autres choses, et relayer en interaction avec...
Parce que le problème, c'est vraiment l'ouverture d'esprit du monde. Et aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu en psychologie de l'enfance, c'est que les enfants, dès le bas âge, vont vraiment rejeter tout ce qui est différent à eux autres. Donc quelqu'un qui ne savait pas de la même façon que ce qu'ils ont dit, ça va se faire vraiment, pardonnez-moi le langage, mais dès que...
On change de champ proxémique? C'est du monde qui baisse. Après, ce qui change, c'est notamment tout le processus à travers lequel on passe pour créer ces images-là. Ce sont des processus dans lesquels on fait attention au consentement, dans lesquels on fait attention à la sécurité des gens, dans lesquels on respecte les limites, dans lesquels on explore les imaginaires, dans lesquels on montre une diversité de pratiques, une diversité de corps, dans lesquels on favorise la communication à l'intérieur de tout le processus. Une fois que l'image est faite, elle part, puis on ne contrôle pas non plus la réception. Puis après ça, c'est pas parce que non plus on se met à faire la porno féministe qu'on réussit à tous les coups. Ça fait 25 ans qu'on en fait, ben, il y a de la place en masse pour qu'on puisse fabriquer ben, de la merde aussi. Je veux dire, tu sais, dans ce qui était, dans tout le répertoire d'images qui ont été produites, notamment par des gars, il y a beaucoup de scrap. Fait qu'on peut-tu se permettre pendant quelques décennies de faire plein d'erreurs? C'est pas parfait ce qui se produit. Après ça? Ben, c'est sûr que dans le mien de film que je me propose de réaliser, il n'y aura pas de scène de pénétration juste pour qu'on puisse s'en libérer au moins l'espace de 5 minutes. Et il n'y en aura pas. Après ça, il y a aussi... mais là, je ne sais pas pour vous. Il y aura une des scènes que j'aimerais bien voir. C'est une scène dans laquelle, effectivement, il y a pour le plaisir d'une fille
des jeux sexuels entre deux gars. Mais c'est la fille qui lead. Et justement, c'est pour anéantir ce tabou de l'homosexualité entre les gars. Et aussi pour que les filles puissent être joyeuses. Et aussi pour qu'elles puissent prendre plaisir à observer. Ça, c'est un renversement assez simple de l'image des lesbiennes et toutes lesbiennes pour le plaisir des gars. Il y aura notamment ça. Il y a aussi une image de masturbation parce que franchement, on n'a pas trop besoin de quelqu'un. Et puis d'autres, là, regarde petit Jane.
Oui, merci. Bonjour. Dans votre présentation, on peut dire l'élément clé que j'en retire, c'est le mot domination. De rapport de domination, si on veut. Vous avez parlé dans l'histoire des humains et des humaines de l'omniprésence du patriarcat. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la séduction est une forme de pouvoir et puis traditionnellement séduit et séduisante, c'est la femme. Donc, est-ce que la femme ne se sert pas de la séduction comme une forme de pouvoir? Et puis, par rapport au patriarcat, selon moi, ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les sociétés. Selon moi, dans son essence, la société québécoise est plutôt matriarcale. On pourrait faire le parallèle avec, l'Italie. En Italie, c'est une société très machiste, mais on vénère l'idée de la mama, et puis la mama, au sein de la famille, a beaucoup de pouvoir. Est-ce que ce ne serait pas des formes de pouvoir différentes qui sont en recherche?
Proxy. OK, est-ce que quelqu'un peut répondre? Toi, derrière, t'aimerais répondre. Toi, t'as pas encore parlé. Est-ce que t'aimerais répondre à ça? Oui, OK. Il y a quelqu'un qui voudrait répondre à ça. Ouais, t'es pas obligée, celle-là, elle était pas tellement.
Mais je crois que dans la série québécoise, on oublie souvent que oui, il y a quand même beaucoup de domination. On a nous-mêmes des industries de la mode, de la pub, de tout. Donc, je vois pas comment ça ne peut pas être. On envoie des signes de domination partout. On a notre industrie de la culture et tout, donc c'est véhiculé constamment. Fait que les Italiens, surtout, la communauté italienne en Italie, et c'était plus grave, mais ça n'enlève pas le fait que se lever quand même ici aussi, puis je trouve qu'on est quand même très américanisé, puis se basant sur un modèle américain qui se prend dans le monde occidental, j'ai jamais eu l'impression que c'était une société matriarcale.
Prenez-en, photocopier, distribuer.